Dans la nuit du 25 au 26 septembre, l'usine Lubrizol de Rouen était donc ravagée par un gigantesque incendie. Et depuis la catastrophe, les questions n'en finissent plus de pleuvoir au sujet des risques sanitaires et environnementaux, malgré les discours rassurants tenus par les autorités. L'État revendique la transparence lorsque de nombreux habitants de la région dénoncent, eux, l'opacité des discours. Des citoyens en colère manifestés hier soir à Rouen devant la salle du Conseil métropolitain et d'autres rassemblements sont attendus aujourd'hui en fin d'après-midi devant le palais de justice de Rouen. Alors que la population a l'impression d'être abandonnée par les pouvoirs publics, revient également la question de la dangerosité des sites industriels. C'est le dossier de la Terre au carré dans un instant avec mon invité Arnaud Gossemant, qui est avocat spécialisé dans le droit de l'environnement et de l'urbanisme. Il répondra en direct à toutes vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert avec vous dans quelques minutes.
Et je vous emmène en Auvergne où s'ouvre demain le sommet de l'élevage. On va voir les vaches, celles du Cantal.
On vous suivra dans la deuxième heure vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Jeff, un auditeur du Perche qui a inventé avec un ami agriculteur une paille en paille. Le feuilleton de la semaine sur les villes zéro déchet avec un nouveau reportage de Célia Quiret à La Rochelle. Et puis enfin notre invité découverte est la scientifique Emmanuelle Puydebas qui publie un ouvrage sur la bio-inspiration ou quand les animaux et les végétaux justement nous inspirent. Voilà pour le programme de cette Terre au carré, réalisé par Valérie Ayestaraï avec à la technique Nicolas Cazot et Ronan Mahé.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, sur France Inter.
Bonjour Arnaud Gossemant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc avocat spécialisé dans le droit de l'environnement et de l'urbanisme. Depuis donc l'incendie de l'usine Lubrizol la semaine dernière, le doute s'immisce partout. On voit l'incompréhension s'installer entre d'un côté donc les pouvoirs publics et de l'autre une très grande partie de la population qui dénonce l'opacité justement des informations. Est-ce que la transparence vantée par le gouvernement est vraiment au rendez-vous ?
Je ne pense pas que le gouvernement fasse de la rétention d'informations. Mais par contre, la première chose qu'on peut noter, ce sont des contradictions. Contradictions d'abord entre les ministres eux-mêmes et les hauts fonctionnaires. Par exemple, la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui déclare samedi dernier que la ville est clairement polluée. Et de l'autre, une conférence de presse d'un préfet de la Seine-Maritime qui explique que l'état de l'air n'est pas préoccupant et qu'il n'y a pas pour l'instant de quoi s'alerter. Donc discours rassurant des uns, pollution pointée des autres. Il y a déjà ce problème de contradiction. Puis je disais que... Il paraît que le préfet de l'Oise, lui, n'a pas toujours pas le même discours que le préfet de la Seine-Maritime. L'un est plus inquiet que l'autre. Donc ça aussi, ça inquiète, cette contradiction. Et puis il y a une chose, moi, qui me frappe beaucoup, c'est le sentiment que les autorités ne sont pas parfaitement informées sur les substances dangereuses qui étaient effectivement présentes sur ce site, qui est un site Seveso. Mmh. Ça veut dire que c'est une usine industrielle particulièrement dangereuse. Donc normalement, l'État est parfaitement informé de ce qui s'y trouve. Or, par exemple, l'État semble avoir découvert qu'il y avait de l'amiante. Ça aussi, on peut s'interroger sur le degré d'information de l'État sur ce site.
Tout ça, ça participe justement non seulement à la confusion, mais aussi à la colère de la population sur place.
Oui, alors c'est aussi une colère qui est liée au fait qu'entre le moment de l'explosion, à peu près 2h40, et le moment où enfin les riverains ont une information sur ce qui se passe, alors que de leur fenêtre, ils voient ces flammes. Ça a été très bien documenté par de vos confrères de la presse locale. On voit effectivement que de nombreuses heures se sont écoulées, nombreuses heures pendant lesquelles ces personnes-là ont eu le sentiment d'être un petit peu livrées à elles-mêmes, ne pas être prises en charge, ne pas être informées. Et même par la suite, dès l'instant où on ne sait pas exactement ce qui se trouve dans l'air, qu'est-ce que je risque pour moi, pour mes enfants ?
Ouais. Agnès Buzyn, justement, vous le disiez, qui déclarait donc sur place vendredi, la ville est clairement polluée par les suit. C'est totalement inhabituel, ça, dans la bouche d'un ministre. C'est quasiment une boulette, parce que cette déclaration qui, au contraire, est plutôt une déclaration intéressante, dans sa crudité, on pourrait dire les choses comme ça, elle détonne par rapport au discours habituel, finalement.
La culture administrative, effectivement, une culture de rassurer les gens. On l'a vu, par exemple, au moment de la catastrophe de l'Erika. Rappelez-vous, la ministre de l'écologie de l'époque, Dominique Voynet, qui avait voulu rassurer sur les conséquences sanitaires de cette marée noire. C'était pas du tout une mauvaise intention. C'est le fait que, quand vous inquiétez, vous pouvez aussi rajouter un problème à un autre. Imaginons que tout d'un coup on panique la population, que tout le monde s'en aille, encombre les routes, submerge les urgences, c'est un problème. Donc le fait de rassurer, on peut le comprendre, mais aujourd'hui, il y a aussi, et on en reparlera certainement, une expertise de la part des citoyens. Les citoyens qui ne veulent plus être considérés comme des enfants.
Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose qui a changé aujourd'hui. Et d'ailleurs, les sociologues vont probablement étudier ce qui se passe aujourd'hui aussi des mouvements citoyens autour de cette usine de Rouen, Lubrizol. Mais c'est vrai que finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux dans l'acceptation d'un discours de vérité, comme finalement la ministre de la Santé, dans cette phrase en tout cas, l'a prononcée, plutôt que dans des choses qui sèment la confusion dans nos esprits?
Oui, je pense qu'effectivement, il y aura un avant et un après Lubrizol dans la gestion de ce type de catastrophe industrielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une demande de transparence lorsque le site industriel est en activité. Et il y a une demande de transparence lorsqu'il s'est produit un problème. Aujourd'hui, les citoyens ont des capacités d'expertise. La presse aussi fait son travail en interrogeant. On a vu des toxicologues s'exprimer ces derniers temps, des chimistes. Donc oui, l'État n'est pas le seul à disposer de cette expertise. Et il y a une demande de transparence qui s'est, par exemple, exprimée très fortement lors de l'incendie de Notre-Dame, où on n'a pas compris pourquoi il a fallu attendre d'avril à début juillet pour qu'enfin on en sache plus sur les problèmes de plomb, de contamination au plomb autour de cette cathédrale.
Donc c'est l'ancien monde face au nouveau monde, finalement, sur un plan purement de communication, d'ailleurs.
Il y a des réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis moi, une chose qui me frappe aussi, c'est que l'information, c'est pas juste une information sur un site. Là, on a un panache. Et le problème n'est pas juste lié comme à ZDF. Le ZDF, il y a un problème de souffle, de riverains à plusieurs kilomètres parfois qui ont été touchés. Mais là, c'est ce panache qui inquiète, et donc une information aussi sur des territoires extrêmement étendus. Ce panache a traversé d'autres états frontaliers.
On va écouter le Premier ministre Édouard Philippe. Déclaration très courte, c'était hier soir à Rouen.
Je suis parfaitement conscient de cette inquiétude. Et encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des analyses qui sont à notre disposition nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause, que les odeurs que nous sentons et que l'on sent ailleurs dans la métropole rouennaise et parfois au-delà sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens, et j'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit et de sécurité et de gestion des risques.
Voilà, c'était donc hier après-midi à Rouen. C'est quoi la transparence totale, finalement, Arnaud Gorsement? Comment il faut l'interpréter, ça? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette notion?
La transparence totale, déjà, c'est au quotidien. Lorsque le Premier ministre dit « il ne faut pas s'inquiéter », il a peut-être raison, mais l'État lui-même reconnaît qu'il ne dispose pas de toutes les informations sur le site. C'est difficile de rassurer une personne si vous admettez que vous-même, vous n'êtes pas correctement informé. Lorsque, par exemple, le préfet dit « on a découvert qu'il y avait un toit en amiante sur ce site-là qui s'est écroulé », on se dit « mais comment ça se fait qu'il ne le savait pas ?» D'abord, donc la transparence, c'est d'abord un besoin d'information et de l'autorité de police et du citoyen en permanence.
Certaines associations, comme l'association Respire, organisent également avec la population des campagnes de prélèvement citoyen qui seront faites donc en présence d'huissier pour fournir des analyses complémentaires. On voit d'abord que la confiance est totalement ébranlée, et ça c'est nouveau aussi, cette espèce d'expertise parallèle par rapport aux autorités.
Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est le fait que des associations disposant d'un pouvoir d'expertise contredisent des expertises d'État avec leurs propres expertises. On l'a eu, par exemple, en matière d'organismes génétiquement modifiés ou de produits pesticides en agriculture, par exemple. On a déjà eu des contestations de résultats officiels par des associations. Là, ce qui est un petit peu nouveau, effectivement, c'est la rapidité avec laquelle ces associations déploient leurs dispositifs et font savoir qu'elles vont tout de suite enquêter.
Ouais. Donc c'est un contre-pouvoir, finalement. Il y a une organisation qui se met en place là pour essayer d'obtenir des résultats.
Après, ça peut être sain, dans une certaine limite. C'est les fake news, les fausses infos, des gens qui font ça pour des mauvaises raisons, notamment politiques. Voilà, il faut aussi que l'État soit reconnu légitime.
20% des terres agricoles donc de Seine-Maritime visées par des restrictions, un peu moins dans l'Oise, la Somme, l'Aisne, le Nord, mais ça concerne quand même toutes ces régions. Ça n'est pas justement, ça n'est pas ça qui va rassurer non plus les personnes.
Non, bien sûr que non. Une catastrophe pour les agriculteurs. Certains vont perdre des labels, comme le label bio qui a déjà été retiré à certaines exploitations agricoles. Certains vont subir des préjudices. Certes, l'État a promis de mettre en place un fonds d'indemnisation. Des assurances ont peut-être marché. Le problème, c'est le délai entre la perte de votre production et le moment où vous êtes indemnisé, sans compter le préjudice moral, l'affection. Vous travaillez, et tout d'un coup, le résultat de votre travail est bousillé. C'est terrible.
Allez, on se retrouve dans un instant, Arnaud Gosman, avec les messages, les témoignages des auditeurs. Ils nous appellent aux 0145 24 7000 également pour réagir sur franceinter.fr et sur la page de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et Camille Cronier, à la veille du sommet de l'élevage, vous avez décidé de nous parler beefsteak aujourd'hui.
Oui, demain à Cournon d'Auvergne seront réunis jusqu'à la fin de la semaine plus de 1500 exposants venus de 38 pays avec 2000 bêtes, des éleveurs de viande bovine qui a bien mauvaise réputation aujourd'hui, vous le savez. Elle serait responsable à elle seule de presque 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et je ne parle donc bien que des bovins. Aujourd'hui, il faut s'y faire, Mathieu. Quand on pense beefsteak, on pense plus frites et sauces béarnaises, mais pollution, déforestation et maltraitance. Mais ça, c'est avant tout dans ce qu'on appelle l'élevage intensif. Moi, j'ai voulu comprendre comment ça se passait dans des exploitations bien moins gigantesques en France. Du coup, fermez les yeux et respirez bien fort. Nous voici dans le Cantal, au milieu des troupeaux de vaches. C'est quoi vous avez comme race ?
Charolais. Là, il y a deux taureaux et ensuite il y a des vaches prêtes pour vêler.
Alors, Paul Totti est éleveur de Charolais, donc 180 vaches sur 280 hectares.
Vu du Cantal, dire que les vaches sont la solution à l'urgence climatique, ça paraît un peu utopique, quoi. Nous, on est comparé aujourd'hui à des systèmes qui sont des feedlots, des bêtes qui sont engraissées dans le désert où tout est apporté, l'eau est pompée, tout est. Enfin voilà, je veux dire, on est à des années-lumière de ce genre de système, quoi.
Alors autant vous dire que ne plus manger de viande pour sauver la planète, il n'est pas d'accord.
Non, déjà c'est mon business, donc ça voilà, je vais pas dire le contraire. Au contraire, manger de la viande devrait être, c'est un acte militant, c'est écologique de manger de la viande, mais de manger de la viande de prairie extensive.
Pourquoi c'est écologique de manger de la viande ?
Parce qu'on remet de la vie dans le sol, on recrée de la matière organique.
Il dit ça aussi parce qu'il est, Paul Totti, l'un des rares éleveurs bio du coin.
Ça, c'est ce qu'on fait pousser ici, c'est du lupin avoine,
voilà, qui remplace le soja et qui fait super bien en bio.
Un complément de l'herbe des prés, sans produits chimiques elle aussi.
Pas d'engrais, pas de désherbant, voilà, tout bio.
Car il ne faut pas forcément se fier aux apparences des paysages verdoyants et purs que j'ai sous les yeux. D'autres éleveurs les dopent, ces paysages.
L'herbe n'est pas bio parce qu'il y a un petit peu d'engrais, pour qu'il y ait davantage d'herbe dans les prés.
Et l'engrais, c'est pas naturel ?
L'engrais n'est pas naturel, non.
C'est fait de quoi ?
C'est fait avec du pétrole, hein.
Ah, donc vous balancez du pétrole sur l'herbe ?
C'est pas du pétrole, c'est quand même de l'engrais qui n'est pas nocif.
Vous la mangez, votre viande ?
Ah oui !
Alors, il se moque un peu, pas de bio parce que trop de paperasse, de contraintes et surtout...
Les rendements sont inférieurs en bio, donc moins de revenus.
Et alors, ne venez pas lui dire non plus qu'il pollue cet agriculteur.
Quand vous avez des avions qui partent toutes les minutes d'Orly, ils doivent polluer plus que... nos vaches qui sont dans les prés, quoi.
D'ailleurs, la pollution ici, eh ben, on la voit pas, donc il y en a pas. C'est ce que m'a dit Robert, un autre éleveur qui, lui, depuis 70 ans, mange de la viande.
À tous les jours.
Tous les repas.
Tous les repas. Ouais, du cochon, de la vache, de la poule, de tout. Ouais.
Alors, devinez un peu sa réaction quand je lui ai dit que l'une des solutions avancées le plus souvent pour sauver la planète, c'est vader rétro viandasse, ne plus manger de viande. Prêt?
Non, moi, je suis pas d'accord avec vous, allez, au revoir, madame.
Non, mais je vous rapporte.
Non, je suis pas d'accord.
Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est je vous rapporte ce qui se dit. Qui
ah oui, elle me fait écouter les idiots et pas la vérité. C'est pour tuer l'agriculture.
J'en sais rien. Je suis pas dans les décideurs. Non, moi, je suis
journaliste. Attendez, mais arrêtez les conneries. La viande, ils allaient toujours manger. Et c'est pas pour ça que ça fait mourir et c'est pas pour ça que ça pollue. Qu'est-ce qui pollue ?
Alors, Robert ne compte donc rien changer, comme beaucoup d'autres. Mais je rappelle quand même, il est difficile une nouvelle fois, même de mettre dans le même panier ses éleveurs que dans le même panier que l'élevage intensif. Ici, c'est du circuit court, des élevages de taille moyenne ou très petit, comme ces 20 vaches en train de paître.
Ça, c'est des aubracs. Je les prends en pension, à l'estive, si vous voulez, du mois de mai au fin septembre.
4 hectares à peine que Roger loue pour compléter sa retraite de commerçant. L'herbe ne pousse qu'avec la pluie et du fumier, pas d'engrais ici non plus, mais les vaches ne sont pas certifiées bio pour autant. Alors, c'est assez compliqué hein, d'y voir clair, ouais. Même en allant directement sur le terrain. Donc, pour ceux qui ne veulent pas renoncer à manger de la viande, le mieux, c'est évidemment le local et le bio, comme tout, finalement. Alors, moi, la viande du Cantal, en tout cas, je la mange depuis bientôt 40 ans. Sacrilège, je ne suis pas végétarienne, mais locavore, hein, je n'en mange que là-bas. Ça fait vivre des petits éleveurs et un territoire pas loin de remplacer son herbe verte par un désert. Et ce serait bien dommage. Coucou les Cantalous.
Et donc, c'est le sommet de l'élevage, c'est
ça ? Le sommet de l'élevage, à partir de demain, jusqu'à la fin de la semaine.
En Auvergne, voilà, Camille Passauvert, et c'est à réécouter sur franceinter.fr. La viande, justement, Arnaud Gossemont, ça vous intéresse, vous, en tant qu'avocat de l'environnement, cette
question-là ?
Bien
sûr, parce que comme vous l'avez souligné, c'est une source d'émission de gaz à effet de serre, mais c'est compliqué parce que c'est aussi utile effectivement pour les prairies, les sols.
Est-ce vous en mangez matin, midi et soir ou pas ?
Non, personnellement je n'en mange pas, mais je ne critique pas ceux de mes amis qui en mangent.
Et est-ce qu'on peut comparer les élevages de taille moyenne ou petits élevages avec l'élevage intensif ?
Évidemment qu'il y a une course au gigantisme dont les agriculteurs sont les premières victimes. Il y a un excellent film que je vous conseille au cinéma, Guillaume Canet, Au nom de la terre, qui décrit très bien tout ça.
Allez Arnaud Gossemont, on vous retrouve dans un instant pour parler évidemment du cadre de cette usine Lubrisol à Rouen.
I live.
In Degrees, c'était Falls.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Arnaud Gossman, avocat de l'environnement avec nous pour parler évidemment de cette usine Lubrizol à Rouen, classée Seveso, seuil haut. Arnaud Gossman, comment il faut interpréter justement cette classification?
Ça veut dire que parmi les activités industrielles, ce sont les plus dangereuses en fonction de la totalité, de la quantité de matières dangereuses présentes sur le site. Elles seront classées Seveso, ce qui renforce les obligations d'information et de sécurité. C'est le nom d'une petite ville en Italie qui a connu une grave catastrophe dans les années 70 où des personnes sont mortes à cause des rejets de dioxines. Et à la suite de cette catastrophe, le droit a évolué fort heureusement et on classe Seveso les usines les plus dangereuses.
Combien de sites industriels en France?
1312, moitié-moitié, seuil haut, seuil bas, plus ou moins dangereux, mais malgré tout très dangereux parmi les plus
1300
dangereux.
1300 Seveso?
Tout à fait. Ouais.
Et pour le reste?
Pour le reste, on a à peu près en France 500 000 sites industriels, mais ça va du dépôt de ferraille, y compris les éoliennes, la station-service, l'incinérateur, la décharge, la... Bref, elles sont pas toutes aussi dangereuses, ces installations classées.
Mais combien de personnes finalement s'occupent aujourd'hui d'aller vérifier ces installations? Alors pour les plus dangereuses évidemment, mais pour toutes les autres, 500 000 c'est énorme.
Oui, alors il y a 500 000 légales, il y a après toutes les activités illégales, c'est un travail colossal et pour faire tout ça, vous avez 1200 équivalents temps plein inspecteurs, c'est-à-dire c'est beaucoup trop peu. Une activité industrielle en moyenne est contrôlée tous les 10 ans, une Seveso tous les ans, ce que nous dit l'État, on espère. Ouais.
C'est insuffisant.
Totalement insuffisant.
Hervé, bonjour, merci d'être avec nous dans la Terre au Carré, on vous écoute. Merci de poser votre question, Arnaud Gossman.
Oui, bonjour. On parle beaucoup d'environnement, mais on parle de conséquences aujourd'hui. Or, je crois qu'il faut revenir au problème initial, c'est que tous ces sites dangereux, que ce soit une usine, Seveso, ou que ce soit des agriculteurs qui dispatchent leurs produits chimiques, le problème est un problème d'évolution d'urbanisme. Une usine Seveso, en général, quand elle est construite, on fait attention à ce qu'il y a autour, etc. Et puis on s'aperçoit que, au cours de l'évolution des mers et des plans locaux d'urbanisme, les territoires autour se transforment en lotissements, en villes. Et on se retrouve aujourd'hui avec des usines Seveso en pleine ville ou des lotissements qui mangent du glyphosate toute la journée. Donc le problème est vraiment un problème de droit, mais d'urbanisme et à long terme. Il faut savoir que les maires ont l'autorité de faire évoluer leur plan local d'urbanisme et donc l'utilisation des terrains, et qu'au cours des années, les maires changent, les utilisations changent, et les préfets approuvent l'évolution des plans d'urbanisme. Donc voilà, il faudrait quand même recadrer ça aussi dans le temps.
Ouais.
Un problème d'environnement aujourd'hui, mais c'est un problème d'urbanisme à long terme.
Oui, absolument. Avec cette usine qui est très proche du centre de Rouen.
À moins de 5 km du centre de Rouen. Comment on peut d'ailleurs se retrouver comme ça avec une usine en plein milieu d'une ville?
Le site de Lubrizol date de 1954. À l'époque, il n'y a pas de réglementation sur la proximité des habitations, mais cet auditeur pose une question cruciale. Pourquoi on est arrivé là? Tout simplement, ce n'est que depuis 2014 que vous avez un plan qui normalement interdit toute construction nouvelle à proximité de l'usine.
Ça fait 5 ans seulement.
Simple. Et le problème de ce plan, c'est qu'il n'est toujours pas appliqué, parce qu'on a aussi un problème de financement, notamment des mesures d'expropriation qui devraient être décidées à proximité de l'usine. Les images parlent d'elles-mêmes. On voit très bien des maisons qui sont à quelques mètres du portail d'entrée de cette usine. C'est absolument un normal, on avait le même problème à AZF, le problème de la proximité des habitations avec des vieux sites industriels et des lois récentes, c'est un vrai problème.
Donc il faut revoir ça assez urgemment, j'imagine.
Il faut développer la culture du risque aussi, y compris chez les riverains. Il faut faire un choix. Soit on veut une activité industrielle, notamment dans des secteurs stratégiques comme le carburant, soit effectivement il faut éloigner les gens.
Mais la solution immédiate, ce serait quoi? D'exproprier du coup les usines? D'ailleurs, il y a eu des demandes déjà en région parisienne hier.
Oui, enfin exproprier une usine, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Soit l'usine est dangereuse, il faut l'arrêter.
Mais on peut le faire ou pas?
Alors légalement, je ne connais pas l'outil qui permettrait, mais ça n'a pas d'intérêt, c'est le problème, c'est pas la propriété de l'usine, le problème c'est son contrôle, le contrôle de ses dirigeants, et le problème aussi c'est on l'arrête si c'est dangereux, c'est ça qu'il faut faire.
Thierry, bonjour, merci d'être en ligne avec nous, on écoute votre question, bienvenue.
En fait, moi j'ai un témoignage à l'époque, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Le 26 avril 1986, donc il y avait l'accident sur la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et je me souviens parfaitement bien, parce que j'avais 24 ans à l'époque, à la télé, à la radio, les instances qui nous gouvernaient à l'époque nous précisaient que le nuage radioactif s'est arrêté au niveau des Alpes.
Alors ça, c'est...
Oui, oui, Thierry, on vous entend, on vous entend.
Excusez-moi.
On vous entend.
Donc, je pense que... Alors aujourd'hui, la défiance systématique contre les instances publiques sur des résultats qui pourraient être positifs ou négatifs sont peut-être systématiques, mais je pense que ça à l'époque, ce fameux nuage radioactif qui s'était arrêté au niveau des Alpes a peut-être de la part d'une certaine partie de la population était depuis on va dire je vous entends pas bien du tout.
Mais nous, on vous entend très très bien, Thierry. Écoutez, on va répondre à votre question si on a des problèmes de ligne. En tout cas, Arnaud Gossement, c'est important d'abord de rappeler que ça n'est pas le gouvernement de l'époque qui a parlé de ce nuage qui s'arrêtait à la frontière. Hein. C'est ce qu'on a retenu, mais ça n'était pas tout à fait le cas. Hein.
Alors c'est vrai que ce n'était pas tout à fait dans les discours officiels. Ce sont des propos du professeur Pellerin qui ont été déformés. Mais c'est vrai que l'État français s'est aussi un peu comporté de cette manière-là, puisque selon que vous étiez du bon côté de la frontière ou pas, les salades pouvaient être cultivées ou pas. Donc dans le comportement des autorités françaises...
En tout cas, ce que dit Thierry, c'est que finalement, ça a traumatisé tout le monde et qu'on s'en souvient bien.
Oui. On s'en souvient très bien. Effectivement, il y a une perte de confiance dans les pouvoirs publics, sauf que là, objectivement, on n'a pas tout à fait la même problématique.
Christian, sur l'application France Inter, nous dit « Le préfet a autorisé une augmentation de stockage de produits dangereux en janvier 2019 et juin 2019. Il cite les sources, la préfecture et le journal officiel. C'est vrai ?
Depuis plusieurs années, le gouvernement nous explique que le code de l'environnement est l'ennemi de la croissance et qu'il faut le raboter, il faut simplifier pour permettre à l'économie de repartir. C'est en partie vrai, il y a des normes qui sont trop complexes. Mais c'est en partie faux et c'est dangereux. Il est exact que jusqu'à une période récente, lorsqu'un industriel voulait augmenter le tonnage de matières dangereuses sur son site, il devait refaire ou actualiser une étude d'impact. C'est un document qui permet de donner des informations très précieuses à l'administration. Sur cette zone de stockage, le préfet a dispensé d'études d'impact selon vos confrères d'Actu Environnement. C'est un industriel là, qui est donc une autorisation d'augmentation de la capacité de stockage dans le lieu où l'incendie a pris feu. Est-ce que c'est lié ? C'est trop difficile de le dire. Mais en tout cas, c'est très clairement regrettable que cette simplification du droit de l'environnement aboutisse à la fin à priver l'administration d'une information stratégique.
Jocelyne de Petit-Queville qui nous écrit en disant si des personnes pensent avoir des pathologies liées justement à cet accident, quels sont les recours possibles ? Est-ce qu'ils peuvent porter plainte ?
Très sincèrement, je ne veux pas encourager à ce genre de choses. D'abord, le parquet est saisi, il y a une enquête administrative et les parlementaires, je pense à Delphine Bateau, ont déposé une résolution pour créer une commission d'enquête. Donc il faut quand même que l'enquête se fasse, il faut que les gens consultent, bien entendu. Si, dans un deuxième temps, la preuve est faite de ces préjudices, oui, bien sûr, elles auront le droit et peut-être même intérêt à porter plainte. Mais je ne veux pas inciter les gens à porter plainte.
Mais on peut le faire. Enfin, c'est extrêmement compliqué, j'imagine, d'abord, de faire une association directe entre un événement comme ça et une pathologie. Mais on peut quand même le tenter ou pas ?
Oui, alors c'est vrai que la preuve du lien de causalité est toujours très compliquée. Il y a des régimes de responsabilité, malgré tout, où cette preuve du lien de causalité est plus facile à apporter. Mais objectivement, ce n'est pas encore l'heure.
Delphine, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Vous habitez près de l'usine d'ailleurs, je crois.
J'habite à 150 mètres à vol d'oiseau, en fait.
On écoute votre question ou votre témoignage.
Oui, alors en fait, j'entends depuis jeudi que le gros problème des usines Seveso, c'est que les habitations sont venues se construire autour d'elles. Ma maison date de 1890. Donc l'usine Lubrizol a été construite bien après ça, elle a été construite en 1952 je crois. Et en fait l'usine Lubrizol se trouve entre ma maison et Rouen, donc les habitations étaient bien là avant.
Arnaud Gossement.
Alors ce que je voulais dire c'est que c'est la question même de la proximité entre habitation et site industriel qui a été posée récemment. Grosso modo en France, la question a été posée au lendemain d'AZF en 2003. Lubrizol est un vieux site qui est donc préexistant à ces lois beaucoup plus récentes qui posent la question de la proximité des habitations. Mais je veux bien croire que madame effectivement habitait bien avant la création de Lubrizol.
Delphine, quel est l'état d'esprit là en ce moment dans votre quartier justement à côté de l'usine ? Comment vous réagissez ? Est-ce que vous êtes dans la mobilisation ? Est-ce que vous êtes vous aussi très déçu, scandalisé, en colère par rapport au discours officiel? Quel est votre point de vue, vous, personnellement ?
Moi, je suis très inquiète. On a la chance, entre guillemets, de ne pas être dans le sens du vent. Donc, en fait, on ne subit pas, nous, alors qu'on est vraiment juste à côté, les odeurs, les mauvaises odeurs et les maux de tête, etc. Mmh. Par contre, on est très près et on se dit qu'on doit respirer des choses inodores et qui sont pas bonnes. Et on est complètement dans le flou artistique et c'est très, très inquiétant.
Vous resterez là de toute façon ou vous avez imaginé, pourquoi pas, déménager de votre lieu d'habitation?
Bah là, déménager, qui va acheter ma maison?
Ça, c'est pas faux.
Merci en tout cas, Delphine, pour votre témoignage et bon courage pour la suite. Merci à vous.
On a une réaction de Michel sur une sorte d'engagement. Il y aura un après Lubrizol. Il dit, allez dire ça aux victimes d'AZF. La même phrase avait été prononcée à cette époque. Et les victimes sont dans des procès interminables. Et c'est ainsi à chaque catastrophe. C'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure. Ça va prendre des mois, des années s'il y a des conséquences, que ce soit sur les agriculteurs, sur la santé des gens.
Cette personne a raison, le procès d'AZF n'est pas terminé. La Cour de cassation doit encore se prononcer au mois de novembre prochain. Donc c'est depuis 2001.
C'était en 2001.
Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur la justice. N'attendons pas tout de la justice, même si des recours seront déposés et utiles. Mais ce dont on a besoin, c'est de prévention. C'est aussi de sous, il faut le dire très sincèrement, de sous de la part des exploitants, mais aussi de la part de l'État pour mettre en sécurité les riverains et aussi d'une information plus réactive et plus complète.
Merci beaucoup en tout cas, Arnaud Gossemand, d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Je signale donc une deuxième manifestation citoyenne aura lieu cet après-midi à 18h devant le palais de justice de Rouen. Les citoyens qui visiblement veulent rester très attentifs et garder la main sur ce qui se passe sur place. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui dans l'émission. Juste après les informations, vos solutions pour la planète. Avec aujourd'hui Jeff, c'est un auditeur du Perche qui a remis au goût du jour la paille en paille avec un camarade à lui qui est agriculteur. Il va nous expliquer tout cela dans un instant. Pour l'instant, sur France Inter, il est 14h.
France Inter, la Terre au carré.
On vous emmène à La Rochelle dans un instant avec Célia Quiret pour le nouveau reportage de sa série consacrée aux villes zéro déchet. Et puis notre invité découverte est la scientifique Emmanuelle Pudebas qui publie chez Odile Jacob « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent ». Mais pour le moment, vos solutions pour la planète et nous sommes en ligne aujourd'hui avec vous, Jeff. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Bien Mieux et fondateur de La Perche. La Perche, eh bien, c'est tout simplement une paille en paille pour en finir avec la paille en plastique à usage unique. Vous êtes designer et cette paille, vous l'avez créée avec Mike, un agriculteur de l'Orne. Racontez-nous un petit peu vos histoires, parce que finalement, ça commence quasiment dans le box des chevaux, hein, votre aventure.
Ben, c'est-à-dire, exactement. Moi, j'ai deux juments et en paillant le box de mes juments, je me suis rendu compte que dans la paille que j'étais en train de disposer, il y avait des pailles qui ressemblaient étrangement à des pailles pour boire. Et face à cette problématique de la pollution plastique dans nos océans, on a tous vu ces images de la tortue avec cette paille dans le nez qui a été tournée au Costa Rica en 2015, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à imaginer. Donc à partir de là, j'ai fait des recherches de sémantique, d'abord en essayant de comprendre d'où vient le mot paille. Effectivement, c'est le même mot dans plusieurs langues qui désigne à la fois la tige de la céréale et l'ustensile pour boire. Et en fait, je me suis dit, bon, bah ça vient de là. En recherchant un peu, on a regardé. Et effectivement, les pailles, à la fin du 19e siècle, étaient en paille, avant de devenir du papier cartonné au début du 20e siècle, puis du plastique dans les années 50. Et c'est là que le drame est arrivé.
Ouais.
Parce qu'effectivement, c'est dans des quantités phénoménales que ça a été fabriqué. Une paille de plastique, c'est 10 minutes d'utilisation. Et après, ça met 200 ans pour se dégrader.
Ouais. Et en France, les chiffres sont hallucinants. Je crois que c'est plus de 3 milliards de pailles qui sont consommées chaque année, c'est ça?
Ouais, on est un petit peu en dessous de 9 millions de pailles plastiques utilisées chaque jour en France. Mmh. Donc ça fait effectivement 3,2 milliards par an. La quantité de pailles utilisées chaque jour dans le monde, c'est 1 milliard et c'est juste impossible
par
quoi,
jour,
c'est
ouais.
C'est incroyable. Donc effectivement, cette petite tortue, moi, m'avait ému à l'époque sur les réseaux sociaux, on se souvient de ces images. Pour reboucler aussi un petit peu peut-être avec l'actualité, il y avait cette phrase quand même de Chirac quand il parlait au sommet de la Terre à Johannesburg, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ça, ça a été aussi déclencheur d'une conscience un petit peu environnementale. Et Mike et moi, on a réussi à se trouver quand même dans le Perche, on est tous les deux surfeurs. et on est très sensible à cette problématique de pollution des océans. Et c'est pourquoi on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose.
Vous n'êtes pas surfeur dans le perche, rassurez-nous quand même.
Non, justement. Alors, faut nous dire où est la vague.
On a un très beau skatepark à Mortagne-au-Perche.
Et votre paille, Jeff, elle met combien de temps du coup pour se dégrader par rapport à une paille en plastique? Ça met combien de temps une paille en paille?
C'est comme de la paille traditionnelle, ça prend 5-6 mois. Alors on est en train justement de faire des études. Nous, on n'a aucun intrant chimique, on n'a aucun traitement particulier. La paille est véritablement naturelle.
Donc elle sent la paille.
Pardon?
Elle sent la paille du coup.
Ah, elle sent la paille, mais elle sent la paille avant qu'on la nettoie et qu'on la stérilise. Et après, elle est tout à fait normale et tout à fait utilisable. Et en fait, comme elle est bio, puisque la ferme de Mike est bio depuis maintenant plus de 30 ans, c'est son papa qui était passé au bio et avant encore, elle appartenait au grand-père. Et donc cette ferme étant complètement bio, nous, nos pailles n'ont aucun intrant chimique, rien, aucun traitement. Donc en fait, elle est complètement naturelle et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à trouver une variété de seigle qui est parfaite pour avoir la bonne distance entre les nœuds de la tige qui font la paille et qui est d'une couleur magnifique, qui est made in France, made in Normandie, donc qui fonctionne bien. Alors le gros avantage, si vous me permettez, c'est que d'une part c'est un produit qui est sain, mais en plus, et c'est ça qui est la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un coproduit de l'agriculture, c'est-à-dire que on ne sème pas du seigle pour pouvoir faire des pailles à boire, on sème du seigle pour récolter la graine qui va devenir de la farine. Et nous, on récupère ces tiges pour pouvoir en faire des pailles. Et en ça, on achète le seigle à nos partenaires agriculteurs, en plus de la production qu'on a sur la ferme. Et à chaque fois, on paye cette paille plus cher que le prix du marché. Donc on est un petit peu en train de créer une microscopique à notre échelle, une microscopique filière qui permet justement aux agriculteurs de pouvoir faire quelque chose de ce qui jusqu'à présent n'était que éventuellement, quand ils avaient le temps, de la litière pour les animaux.
Alors Jeff, ça marche bien votre petite entreprise, parce que là vous en êtes à combien? C'est la première année, c'est ça, la première moisson a été faite cet été?
Absolument, en fait on a fait une moisson en juin 2018. Mais qui était pas de très bonne qualité. C'était pas la bonne variété de seigle. On l'avait pas choisi. On avait juste utilisé ce que Mike utilise habituellement. Là, cette année, on a semé spécifiquement cette variété qui nous intéresse. La moisson, l'an dernier, en 2018, était au mois de juin. Cette année, elle était très en retard parce que nous, on est obligé d'atteindre une maturité de la graine et en même temps de laisser pousser la tige le plus possible pour qu'elle ait cette dimension qui corresponde au diamètre d'une paille qui est entre 5 et 6 mm. Et donc, ça a commencé la moisson très tardivement, début août. Et on a fini il y a 15 jours, parce qu'en fait, on fait deux passages. On fait un passage en plateau haut avec la moissonneuse pour récupérer les graines. Et puis ensuite, on laisse pousser et on coupe avec une très vieille machine, qui est une vieille machine des années 40 qu'on a retapée et qui permet justement de conserver l'intégrité de la tige de la céréale.
Jeff, ça coûte combien une paille en paille?
Ou une boîte de paille.
Ou un lot de paille.
Une botte de
en
paille.
Fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les vend dans des petits bocaux en verre, en vrac, dans les magasins qui font du vrac. Et pour une douzaine de petites pailles, on vend ça à 3 euros. Donc c'est un petit peu cher, mais c'est vrai qu'il faut, il faut bien comprendre que les tout le process, que ça soit le process de semis, que ça soit le process de moisson et que ça soit après le process de traitement qui nous permettent de les laver, de les rincer, de les désinfecter et de les mettre en conditionnement pour pouvoir les envoyer, tout ça est manuel. Et donc nous, on est très fiers de travailler à la fois dans cette économie circulaire, puisqu'en travaillant un coproduit de l'agriculture et en étant zéro déchet, puisque toutes nos chutes de production sont utilisées pour mettre au point un nouveau matériau fait à base de paille et de sève de pin qu'on trouve dans le perche, qui nous permet de créer des couteaux, qui nous permettent...
On va terminer, Jeff. Il va falloir terminer. On va pas faire l'émission sur les pailles en paille.
Et donc, en fait, comme on est zéro déchet, qu'on est dans cette économie circulaire, on est vraiment aujourd'hui inscrit dans le territoire, dans ce département de l'Orne, dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'on travaille avec l'ADAP de l'Orne.
Merci Jeff. Merci beaucoup Jeff. Merci infiniment.
À vous, en tout cas, c'est gentil.
Voilà, Mike, c'est la perche.bio pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Et vous nous avez offert une très belle transition pour parler de zéro déchet. Merci beaucoup à vous Jeff et saluez Mike, l'agriculteur.
Ils sont pas surfeurs pour rien, Mike et Jeff.
Bonjour Célia Quiret.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Voilà, suite justement de votre série de reportages sur les villes zéro carbone. Nous sommes toujours à La Rochelle. Cette ville a l'ambition d'être neutre en carbone à l'horizon 2040. Mais pour cela, eh bien, il faut que tous les secteurs mettent la main à la pâte, y compris les plus polluants.
Oui, et aujourd'hui je vous emmène au port de commerce de La Rochelle, sur les quais où accostent les bateaux de transport de céréales et de bois. C'est le deuxième port français pour l'export des céréales. Entre les troncs d'arbres coupés qui arrivent d'Afrique et les porte-containers, les gérants de ce port autonome et les entreprises qui y travaillent sont obligés de trouver des sources d'économie d'énergie pour participer à ce territoire zéro carbone. Alors bien sûr, ça ne pourra jamais gommer les tonnes de CO2 émises par les bateaux en mer, mais cet effort est assez méconnu. À La Rochelle, on mise sur les énergies renouvelables et on recycle même les déchets de bois pour chauffer les bâtiments.
Vous avez en face de nous un terminal céréalier. Puis on se trouve à Chef de Baie, qui est un terminal qui a pour activité les céréales un peu, mais également le bois et la pâte à papier. Moi, je suis Rémi Justinien, je suis le délégué de l'association MER, Matière Énergie Rochelaise.
Et alors, en quoi ce port fait des efforts pour l'environnement, justement, pour réduire ces émissions? Vous me parliez, par exemple, des hangars avec des panneaux solaires. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple?
Bah, il s'inspire des principes de la transition écologique. On est à la fois sur la production d'énergie renouvelable, on a des hangars, on a une toiture de base sous-marine qui peut être solarisable. Et effectivement, ça l'est. On a produit 5 gigawattheures d'énergie renouvelable cette année, en 2019.
Grâce à des panneaux solaires.
Grâce aux panneaux solaires, qui pourront demain, pourquoi pas, expérimenter le champ de l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. Mais également réfléchir à l'économie circulaire avec la Romane, qui est notre entreprise de collecte et de valorisation des déchets qui arrivent sur le port. Ça veut dire qu'on ne parle plus de déchets, on parle de ressources qui arrivent sur le port et qu'on arrive à valoriser en énergie, par exemple.
Il y a beaucoup de bois qui arrive, vous voyez, oui. des grumes.
Oui, ça, c'est l'histoire du port de La Rochelle. Ça fait des années et des années que du bois arrive ici, notamment en Afrique. Et donc, c'est comment à la fois cette matière première se recycle, et notamment par le biais de la transformation de ces produits, en utilisant ce bois comme énergie pour créer de l'énergie, tout simplement. Depuis l'histoire, toute l'histoire des ports est concentrée sur l'énergie. Les ports sont obligés de se tourner vers l'avenir et d'anticiper quels seront les changements, notamment en termes énergétiques. Donc on sait que les poussières de céréales, c'est très méthanogène. Donc c'est comment on collecte ces poussières de céréales et on les valorise en méthanisation.
Un petit peu, ou... Vous êtes
Joël Ferreiro, directeur de la société La Romane, société de service sur le port de La Rochelle. On a les pâtes à papier qui sont valorisées en papier ou en carton. On a les déchets de bois qui sont revalorisés soit en panneaux mélaminés, soit en chaufferies dans des bâtiments de La Rochelle. Et tout ce qui est après méthanisation, donc là on a les poussières de céréales. L'idée étant qu'en 2020 on atteigne les 95%.
Et quel est le rapport selon vous entre cette bonne gestion vertueuse des déchets et la baisse des émissions carbone? C'est que ça permet justement de dépenser moins d'énergie ?
Alors non seulement ça permet de dépenser moins d'énergie, financièrement on s'y retrouve et ça permet de créer aussi une économie locale parce qu'on crée des emplois en parallèle pour justement revaloriser ces déchets-là, où on est passé de producteur de déchets à producteur d'emplois. Voilà un petit peu la transition qui a été réalisée sur le port.
Oui, là-bas, il y a un chantier de céréales. Ça émet beaucoup de poussière. Alors, on peut s'approcher, oui. Évidemment, mais c'est pas forcément bruyant, mais c'est surtout la poussière qu'on risque d'avoir.
Sylvie Zajinski, je suis la directrice du site Bolloré Ports à La Rochelle. Nous faisons principalement donc, des céréales et importation de bois, de pâte à papier, voilà, des conteneurs un peu également.
Sur les déchets par exemple, qu'est-ce qu'il y a de valorisable que vous pouvez récupérer
Il y a par exemple, très clairement la pâte à papier qui peut être réutilisée puisque c'est de la matière première pour fabriquer du papier, donc ça c'est très facilement réutilisable et revalorisable. Le bois également qui peut être déchiqueté pour de l'énergie, pour du chauffage. Ce que l'on récupère peut servir à chauffer d'autres sites que le nôtre. C'est pas forcément pour soi-même qu'on le fait.
Et vous avez d'autres projets pour dans les 10 ans qui viennent ou 20 ans qui viennent pour justement encore réduire encore plus le bilan carbone?
L'idée c'est d'électrifier les quais de façon à ce que les bateaux puissent se connecter directement et donc moins consommer de carburant quand ils sont en bord à quai.
Qu'est-ce qui n'existe pas par exemple et que vous aimeriez bien voir arriver d'ici 10 ou 20 ans?
Par exemple, c'est l'éclairage en basse consommation, mais éclairage fort pour qu'on puisse travailler, parce que quand il fait nuit, vous avez besoin de voir comme le jour pour éviter tous les accidents, parce qu'il ne faut pas oublier la sécurité des hommes avant tout. Et puis, en effet, pourquoi pas des outils de manutention, des engins de manutention qui soient beaucoup moins énergivores, en tout cas de carburant que l'on connaît aujourd'hui. Ne pas consommer, c'est encore la meilleure façon d'aider notre environnement.
Voilà, Célia qui irait par exemple avec le port de La Rochelle. Mais le plus important pour cette neutralité carbone, vous le disiez, c'est de réussir à réduire toutes sortes d'émissions.
Oui, la ville développe des logements économes en énergie. Elle teste différentes techniques d'ailleurs dans un parc un peu futuriste qui s'appelle Atlantec, avec des panneaux solaires hybrides ou encore de la production d'hydrogène qui pourrait être utile également pour les transports. La ville multiplie aussi les vélos, les voitures électriques en partage. Et elle va d'ailleurs bénéficier de l'aide de l'État car elle a été choisie récemment comme territoire d'innovation par le Premier ministre. Pour cette ville côtière qui a vécu la tempête Xynthia, ce n'est pas anodin. Atténuer la montée des eaux et le réchauffement climatique est même une question de survie.
Vous nous emmenez où demain, Célia ?
Changement de décor, nous serons à la campagne, dans le pays de Menet, au centre de la Bretagne. C'est le premier territoire à énergie positive français et nous serons d'abord dans une ferme qui réduit au maximum ses émissions carbone.
Merci Célia Kiré, reportage à réécouter évidemment sur franceinter.fr. Dans un instant, notre invité découverte va nous parler d'animaux et de végétaux comme source d'inspiration. Ce sera après L'amour saignant et Abel Chéret. Bon après-midi avec La Terre au Carré.
Jute la pulpe rosée de nos lèvres arrosées au jardin de nos baisers. Tant ce fruit innocent brille tes dents comme un gourou qui harangue les âmes perdues, ma langue s'attendrit en chair de mangue. Passe la herse de craie de ton palais. Alors se ferme d'un coup sur l'organe de mon goût comme la mâchoire d'un loup dans la peau d'un agneau ton massicot. Adieu amour mielleux, doucereux et collant, qui survit trop longtemps. L'amour saignant saigne quand se venge mes canines. C'est un fleuve hémoglobine qui coule entre nos babines. On savoure ce breuvage anthropophage et de ce cocktail féreux déguerpit l'amour peureux, laissant s'étouffer le feu que l'on attise en vain jusqu'au matin. Adieu amour mielleux, doucereux et collant, qui survit trop longtemps. L'amour saignant saigne. Ses bras la nuit vanée emporte l'amour morné. Nous nous regardons gênés et s'échappe le deuil en un clin d'œil. Adieu amour.
L'amour saignant, Abel Chéret.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Emmanuel Puydebas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'évolution des comportements. Et vous publiez chez Odile Jacob cet ouvrage « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent ». Il est question dans ce livre de biomimétisme ou de bio-inspiration. Ça veut dire exactement la même chose ou pas ?
Non, c'est pas tout à fait la même chose. On pourrait parler longtemps sur les deux définitions. Disons que le biomimétisme, on essaye de recopier, je caricature un peu, hein, et la bio-inspiration, c'est plus l'idée du livre, c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer du monde vivant, donc des animaux et des végétaux, pour en tirer parti, nous les humains.
Ouais. C'est quoi votre travail quotidien au Muséum National d'Histoire Naturelle d'ailleurs?
Alors mon travail quotidien, c'est malheureusement chercher beaucoup d'argent pour les projets, j'ai envie de dire c'est un peu la majorité, et puis de temps en temps quand même, heureusement, passer du temps avec les animaux.
Ah alors... rassurez-nous quand même, parce que ça donne pas très envie de faire votre boulot.
Non, je reconnais que c'est pas toujours simple, mais heureusement il y a des grands moments de bonheur. Le premier c'est avec les étudiants quand même, je leur rends hommage encore, hein, parce que franchement s'ils n'étaient pas là, ce serait la recherche serait pas grand chose. Mm-hmm. Et puis passer beaucoup de temps le plus possible avec les animaux.
Lesquels, hein?
Et en ce moment c'est assez diversifié, ça va de l'écrevisse à l'éléphant, passant par les macaques.
Vous savez, ils ont des points communs.
Oui, ils ont des points communs. Moi je m'intéresse beaucoup aux capacités de préhension et de manipulation des animaux, l'utilisation d'outils aussi, et tous les animaux que j'étudie ont des capacités de préhension. Les écrevisses, elles ont des exosquelettes, donc c'est-à-dire qu'elles ont un squelette externe, hein, c'est la carapace disons, et elles ont des pinces, et donc elles saisissent et elles manipulent très bien avec leurs pinces, et d'ailleurs ça intéresse aussi les roboticiens, parce que c'est juste deux pinces, il n'y a pas cinq doigts comme nous, donc c'est plus simple, et pourtant elles font des choses très, très performantes.
Ouais.
Et puis le point commun avec l'éléphant, c'est qu'il a une trompe, et l'éléphant avec sa trompe, il a des capacités extraordinaires.
Hein, très habile aussi.
Ouais. Oui, il peut saisir un popcorn, le manipuler dans sa trompe, moi j'ai vu faire ça, hein, saisir un popcorn.
Et c'est important pour un éléphant de saisir un popcorn, on ne se rend pas compte, mais attendez.
On ne se rend pas compte, mais ça lui met un petit peu de bonheur dans sa journée. Et puis en même temps, il peut déraciner, moi aussi, oui, beaucoup, il peut déraciner un arbre.
Oui.
Donc en gros, c'est un organe qui est précis et puissant à la fois, et quand on dit ça, les roboticiens ne sont jamais très loin non plus.
Mais tous ces animaux, vous allez les étudier sur le terrain, j'imagine, ils ne sont pas chez vous, rue Buffon, dans le 5e arrondissement quand
non,
même.
Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on ait des éléphants pas trop loin, mais non, il faut aller. Alors pour ce type d'études, comme on est obligé d'être relativement près des animaux pour faire des analyses de mouvement, des mesures de morphologie, etc. Donc il faut être près d'eux. Donc je travaille beaucoup en parc zoologique. Alors pour les écrevisses, on s'octroie quand même la possibilité d'aller sur le terrain. Hein.
Ouais.
On était dans le Morvan il n'y a pas très longtemps pour attraper des écrevisses et les mesurer. Donc voilà, c'est en fait, en fonction des espèces, on fait comme on peut.
Et en quoi il faut qu'on s'inspire du comportement des animaux ?
Bah, j'ai envie de dire, ils sont là depuis, enfin, le monde vivant, il est là depuis plus de 4 000, enfin, depuis très, 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 très longtemps.
Enfin, il y en a qui
disparaissent. C'est des millions, oui, il y en a qui disparaissent beaucoup, malheureusement. C'est pour ça que j'ai envie de dire, faut s'en inspirer vite pour leur laisser si possible, plus de temps à la biodiversité. Il y a un recul dramatique. Et il faut s'en inspirer parce que ça fait des millions d'années qu'ils sont là, ils optimisent, ils innovent en permanence en fonction des problèmes qu'ils rencontrent. Et puis, en ce moment, il y en a de plus en plus. Donc, ils innovent, ils optimisent et on peut s'en inspirer pour améliorer plein de choses, que ce soit pour se déplacer. Les Japonais se sont inspirés du martin pêcheur
pour le Shinkansen, le TGV japonais.
Exactement, parce qu'en fait, un martin pêcheur, quand il rentre dans l'eau, il ne fait pas d'éclaboussure, il n'y a quasiment pas d'onde de choc. Et pourtant, il pénètre l'eau à 80 km/h. Hein.
Ouais.
Donc, ça a inspiré le TGV japonais.
Mais c'est le bec, en fait.
Exactement, hein. C'est le crâne et le bec qui sont profilés. Et donc, cette morphologie leur permet justement d'éviter les ondes de choc. Et ça a permis aux nouvelles générations du TGV japonais d'aller plus vite et en faisant moins de bruit, parce qu'il y avait énormément de nuisances sonores, notamment en rentrant dans les tunnels.
Et il est vraiment dessiné, hein, comme le bec
comme un martin pêcheur.
Du martin pêcheur.
Tout à fait.
Et il va très vite, effectivement. Alors, ce qui est incroyable, c'est que finalement, on découvre que l'ensemble du monde vivant est inspirant pour les chercheurs aujourd'hui ou les ingénieurs, c'est-à-dire les animaux, les végétaux et aussi le monde des bactéries. C'est-à-dire que c'est vraiment à toutes les échelles qu'on peut justement puiser des idées.
Oui, je pense que oui, ça dépend vraiment des questions qu'on se pose. Après, l'échange peut être dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que les ingénieurs peuvent avoir des solutions à nous fournir et puis nous, on se pose des questions et puis on se rend compte que on a plein de modèles pour répondre à des questions précises et les réponses sont infinies en plus, hein, parce qu'il y a 2 millions d'espèces plus ou moins connues, disons, mais sur ces 2 millions, il n'y en a que 10 000 qui sont vraiment décrites. Donc c'est un potentiel infini de découvertes, encore une fois, si on leur laisse le temps de survivre.
Mais les bactéries, en quoi ça peut nous inspirer, par exemple?
Les bactéries, il y a tout un nouveau champ qui travaille même sur l'intelligence des bactéries, hein, sur tous les échanges de communication. Donc tout est possible, hein, vraiment tout est possible. Et même chez les insectes, il y a énormément de choses encore à découvrir. Je pense à cette libellule. La libellule, elle inspire par exemple les nouvelles générations de micro-drones, hein, parce qu'elle a une énorme manœuvrabilité, que ce soit avant, marche avant, arrière, des décollages dans n'importe quelle position de repos. Mmh. Et elle inspire aussi des nouvelles éoliennes, puisque les ailes des libellules peuvent se mettre en mouvement, même s'il y a un très faible vent. Il y a une très grande flexibilité, donc ça pourrait aussi créer de nouvelles générations d'éoliennes.
Alors moi, je vois, les moules aussi pourraient nous inspirer. J'aimerais bien savoir un peu plus sur les moules.
En fait, ça me fait penser au projet donc, qui a été développé à Venise, où en fait, ils ont créé, alors là aussi, on parle d'intelligence collective, mais en robotique. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont créé des générations de robots qui communiquent entre eux pour détecter des traces de pollution dans la lagune à Venise. Alors, il y a des robots inspirés des moules, c'est-à-dire qu'ils vont être positionnés au fond de la lagune pour capter des informations de température, de salinité, de pollution, etc. Et puis, ces robots moules coopèrent avec des robots nénuphars.
Le robot moule.
Le robot moule. Pardon, mais...
Non, il n'y a pas de souci, ça me fait beaucoup rire aussi.
Mais oui, on aime bien.
Ça, ils coopèrent donc avec les robots nénuphars qui, eux, sont en surface et donc vont capter encore d'autres informations sur sur les taux de pollution. Et ils coopèrent avec d'autres robots inspirés cette fois-ci des poissons qui eux vont justement se déplacer et donc explorer le milieu pour capter encore d'autres informations sur les propriétés chimiques de la lagune. Donc c'est une coopération entre robots qui est inspirée d'animaux, les moules parce qu'elles filtrent beaucoup la pollution par exemple, hein, donc c'est de la coopération entre robots.
Manuel Poudeba, les inventions justement dont vous nous parlez, en tout cas les sources d'inspiration, elles sont déjà effectives parce que vous avez employé le conditionnel là tout à l'heure en parlant par exemple des bactéries, où il y a beaucoup de choses qui restent quand même à l'état de recherche.
Il y a des choses qui sont beaucoup à l'état de prototype. Je pense aussi par exemple aux papillons morpho qui ont une structure des ailes extrêmement perfectionnée pour justement s'auto-réguler malgré de très fortes chaleurs, et ça peut donner lieu à des prototypes de nouveaux panneaux photothermiques par exemple, hein, qui eux ont du mal à supporter de très fortes chaleurs. Pareil pour le bâtiment pomme de pin, Igroskin, qui a inspiré des pommes de pin, vous savez quand elles craquent l'été, c'est qu'elle s'ouvre en fait, et puis quand l'humidité redevient forte, elle se referme.
Donc ça peut inspirer des climatisations, par exemple.
Oui, comme des climatisations mécaniques finalement, avec des fenêtres qui vont se fermer et s'ouvrir en fonction du taux d'humidité. Tout ça, c'est à l'échelle de prototype. Mais disons que le premier problème, c'est qu'il y a des fois, on ne sait pas reproduire.
Oui.
Et quand on sait, on le fait à l'échelle de prototype, et puis après, il y a toute la commercialisation, et ça, c'est encore une autre étape.
Donc, il faut être extrêmement patient, et vous concluez avec cette phrase de Victor Hugo, c'est une triste chose de songer que la nature parle, Camille, et que le genre humain n'écoute pas.
Mais nous, on écoute, Mathieu.
Voilà, écoutons-la.
Voilà, on peut écouter, on peut s'inspirer aussi, on peut découvrir cet ouvrage, Emmanuel Puydeba, que vous signez, s'appelle « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent ». Il y a plein d'exemples, c'est passionnant, et ça paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être passé cet après-midi dans La Terre au Carré. Merci à Denis Delbecq, à la rédaction chef de l'émission, Chantal Lemontagnier, Lucie Sarfati, Irène Menahem pour la préparation des dossiers. Thierry Dupin assurait la programmation musicale, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le programme de l'émission et les liens vers les différents sujets sur notre site franceinter.fr.